VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Gabon, intensification du bras de fer entre le président sortant Ali Bongo Ondimba et l'opposant Jean Ping qui conteste la réélection du chef de l'État à la récente présidentielle. Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Emmanuel Issoze Ngondé, a annoncé aujourd'hui le report sine die de la mission de l'Union africaine dans la crise qui secoue son pays. L'Union africaine avait déclaré lundi qu'elle était prête à envoyer une délégation de chefs d'État africains à Libreville pour essayer de désamorcer cette crise et éviter que le Gabon, jusqu'à présent l'un des pays les plus stables d'une région troublée, ne sombre lui aussi dans la tourmente. Selon le ministre Emmanuel Issoze Ngondé, la mission de l'Union africaine aurait été reportée pour des raisons de calendrier. Plus de détails sur la situation au Gabon avec Nanit Talani.
Jean Ping n'a toujours pas déposé de recours contre la réélection du président sortant à la clôture du délai légal de contestation devant la Cour constitutionnelle. Par contre, hier, à la veille de la date butoir de ce jeudi 16h heure locale, 15h temps universel, le président Ali Bongo a déjà confirmé qu'il allait lui-même saisir la Cour sur certains résultats obtenus par M. Ping. Le camp Ping continue de réclamer un recomptage des voix avant tout recours devant la Cour constitutionnelle. Dans l'attente du dénouement de la crise, la vie tourne au ralenti dans le pays, même si quelques titres de la presse, d'opposition comme proche du pouvoir, ont reparu ce jeudi après plus d'une semaine de paralysie.
Crise sud-soudanaise, il serait mal avisé pour Riek Machar de retourner à son précédent poste de vice-président à Djouba, estime Donald Booth, l'émissaire spécial américain pour le Soudan du Sud. Pour sa part, la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, affirme avoir aidé à transporter en lieu sûr des partisans de Machar ayant franchi la frontière entre le Soudan et la RDC. Les précisions de Lionel Gaïma.
Compte tenu de l'instabilité persistante au Soudan du Sud, Washington croit qu'un retour de Riek Machar au poste de vice-président serait une bonne idée, a fait savoir l'émissaire spécial américain pour le Soudan du Sud. Ce n'est pas pour autant une raison pour le président sud-soudanais Salva Kiir de monopoliser le pouvoir et de museler toute dissidence politique, a souligné Donald Booth mercredi lors d'une audition à la Chambre des représentants. Face à la situation prévalente au Soudan du Sud depuis 2011, plusieurs législateurs américains sont appelés à des sanctions contre les responsables de la violence dans ce pays. La mission de l'ONU en RDC dit de son côté avoir pris en charge, pour des raisons purement humanitaires, plus d'une centaine de partisans de Riek Machar ayant franchi la frontière. Selon le porte-parole onusien Stéphane Dujarric, que cite l'AFP, certains étaient dans un état critique et ont été acheminés vers des centres médicaux congolais pour recevoir des soins. Ces combattants et leurs chefs avaient été chassés de Djouba, la capitale sud-soudanaise, à la suite de violents affrontements avec les forces loyales du président Salva Kiir.
Au Kenya, manifestation des journalistes ce jeudi dans plusieurs villes du pays, dont Nairobi, la capitale, après la mort de deux collègues dans l'exercice de leur métier. Un travail que les protestataires jugent de plus en plus dangereux. Une centaine de journalistes se sont réunis dans le centre de Nairobi, brandissant des pancartes avec des slogans comme « Les reporters méritent de rentrer sains et saufs auprès de ceux qui leur sont chers ». D'autres manifestations, moins suivies, ont été organisées à Nakuru, dans le centre-ouest, ainsi qu'à Kitale et Eldoret, dans l'ouest du pays.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, découverte d'un important lot d'armes de guerre et de munitions à Tombouctou, dans le nord-ouest, et ce grâce au concours des populations qui avaient informé la gendarmerie de la ville d'un mouvement suspect au niveau d'un bâtiment inhabité. Après une semaine d'enquête, les autorités ont trouvé un véritable arsenal de guerre. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
À Badjindé, plein centre-ville, poumon de l'économie de Tombouctou, la gendarmerie nationale a pu mettre la main sur ces dépôts composés d'armes légères, de grenades offensives et défensives, des PA, des lance-roquettes, des obus de mortier de 60 à 80 mm, ainsi qu'une importante quantité de munitions de guerre. L'auteur de ce forfait, selon les enquêteurs, est en fuite. Quant à l'opération, elle suit son cours normal. Rappelons que la même unité de la gendarmerie basée à Tombouctou sous le commandement du chef d'escadron Siaka Diakité, un certain Oumar Ibrahim Aïdra, ex-militant de Mujao, a été arrêté à Tombouctou. Ce dernier a reconnu avoir collaboré avec le Mujao en 2012. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Bénin compte tirer des bénéfices de son économie culturelle. Et pour le président Patrice Talon, cela passe par le retour au pays de tous ces objets sacrés qui auraient été volés, pillés ou offerts et qui font la fierté et la richesse des musées de l'ancienne puissance coloniale. Le Nigeria n'a pu obtenir d'une pareille démarche qu'une reconnaissance signée par la France. Mais le Bénin ne désespère pas. Plus de détails avec Ginette Fleur-Adondé, notre correspondante à Cotonou.
Pour beaucoup, il était temps qu'après la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, quelqu'un prenne la décision de se fier aux exigences de la charte culturelle qui demandait la reconstitution du patrimoine culturel du Bénin.
Décision salutaire, courageuse, parce que ce n'est pas évident. Ce serait toujours une bonne chose que de permettre aux nouvelles générations de pouvoir aller se ressourcer en un endroit sûr où ils peuvent facilement avoir un peu plus d'informations sur ce qui a eu de par le passé sur l'histoire du Bénin.
C'est parce que d'autres pays l'ont réussi qu'aujourd'hui le Bénin estime que lui aussi, il peut aller sur la même voie.
Mais passé la bonne bouffée de joie et de patriotisme, les vraies questions reviennent sur le tapis concernant cette entreprise. Certains pensent que le chef de l'État s'est empressé de prendre une décision sans tenir compte des réalités intrinsèques d'un patrimoine tel que celui qu'on demande le rapatriement. C'est le cas de Franck Ogou, expert dans le domaine. Il est en fonction à l'école du patrimoine africain.
Dans le cadre des rapatriements des biens volés ou pillés, il y a la convention unie droit que les États participent afin de s'entendre sur des cas éventuels de rapatriement de biens. Et sur ce point, il faut préciser que la France n'a pas signé la convention unie droit et donc n'est pas concernée par le rapatriement des biens culturels pillés en Afrique. Il faut également dire que pour que cela puisse faire, il faut voir le contenu des accords bilatéraux entre la France et le Bénin. Voici ces accords-là prévoient éventuellement ces cas de rapatriement.
C'est la même rengaine chez Pascal Ouanou, ancien directeur du plus prestigieux festival de théâtre du Bénin. Il pense pour sa part que le gouvernement ne doit sous aucun prétexte brandir la force pour récupérer des objets qui ont été jalousement gardés par les bons soins de la France.
Et la politique nationale du Bénin en matière culturelle recommande que l'État béninois aille en négociation. C'est une négociation. Il ne s'agit pas de réclamer quelque chose qu'on a soi-disant volé, non?
De Cotonou, Ginette Fleur-Adondé pour VOA Afrique.
Sommet du G20 à Hangzhou en Chine, quel projet pour l'Afrique à cette réunion qui s'est terminée en début de semaine? Les pays les plus industrialisés vont-ils réussir dans les sillons tracés par la Chine en Afrique? Les analystes sont sceptiques, évoquant l'absence d'un plan clair, dit Sango.
Au sommet de Hangzhou en Chine, le G20 a approuvé un programme de développement durable pour l'Afrique, mais sa mise en œuvre reste une autre histoire, estime Barry Sotman, politologue à l'Université des sciences et de la technologie de Hong Kong. Sotman estime que bien que l'Afrique soit riche en ressources naturelles et présente de nombreuses opportunités, les intérêts et les niveaux de compétition divergents empêchent les membres du G20 d'œuvrer ensemble pour faire éclore les potentiels de croissance du continent. Les modèles d'affaires à faible marge bénéficiaire en Afrique n'est pas pour toutes les entreprises non plus, ajoutent les politologues. Par exemple, les fabricants chinois des produits de qualité moyenne peuvent se contenter d'une marge de profit mince de 5 à 10%. Or, les entreprises de nombreux pays occidentaux réalisent souvent jusqu'à 30% de la marge bénéficiaire, affirme Sotman. Les analystes souhaitent par exemple que les G20 mettent fin à la subvention des efforts d'exploitation des nouvelles réserves de charbon, de pétrole et de gaz décidées en 2009 à Pittsburgh. Pour eux, le G20 est à l'heure de vérité face à l'Afrique, comme l'a dit l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo.
Et pour terminer, le président américain Barack Obama a rappelé ce jeudi à Pékin son obligation de se soumettre à une décision de la justice du tribunal de La Haye en sa défaveur sur la mer de Chine méridionale, principale liaison entre les océans Pacifique et Indien. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.